Voilà, donc on va continuer notre parcours. Ce matin, nous avons donc un peu parlé de la souffrance, de l'existence du mal dans le monde. Et effectivement, on ne peut que le constater qu'il existe vraiment un mal. Après, on peut toujours chercher, comme on disait, le pourquoi, essayer de creuser les racines, l'origine du mal, et on va toujours buter sur des mystères trop compliqués, et donc c'est toujours un peu dangereux de vouloir regarder en arrière pour comprendre le mal. Et donc Dieu nous propose, plutôt que de regarder en arrière, en demandant pourquoi, dans le sens de la cause, il nous demande pourquoi, dans le sens de pourquoi cette souffrance, elle peut servir, et surtout pour qui. Donc à la place du pourquoi, et on peut, nous, en tant que chrétiens, transformer le pourquoi en pour qui. Et ça, déjà, ça change beaucoup. Il y a une personne qui m'a laissé cette phrase de Paul Claudel qui vraiment introduit très bien ce qu'on va dire maintenant. Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Et au fait, ça, ce qui est, c'est très, très beau. Parce que, au fait, on se rend compte que, au fait, il y a cette chose incroyable à laquelle nous sommes trop habitués, malheureusement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de voir Jésus sur la croix. Et au fait, c'est quelque chose qui doit toujours nous scandaliser. C'est vraiment une folie et c'est vraiment un scandale, la croix du Christ. Et on ne peut pas s'habituer à voir Jésus sur la croix. Il faut que ça reste pour nous une expression d'un scandale, d'une folie, et surtout un scandale, une folie d'un amour incroyable. Et du coup, on ne peut pas vraiment s'habituer à voir Jésus sur la croix. C'est vraiment pas sa place. Et au fait, c'est ça un peu, je vais vous dire cette chose que Paul Claudel a dit un peu de deux manières un peu différentes. Au fait, c'est vrai, ce qui se passe, et ça, c'est vraiment la chose un peu improbable et incroyable, c'est qu'à chaque fois que la croix s'approche de nous, à chaque fois que la croix s'approche de nous, en même temps, Jésus va s'approcher encore plus de nous. Jésus a voulu être inséparable de la croix, vraiment pour cela. C'est-à-dire, à chaque fois que la croix s'approche, qu'elle veut avancer dans notre vie, en général, pour nous éloigner de Dieu, c'est ça le piège de la croix, c'est ça le piège de notre ennemi, c'est il utilise la croix pour nous éloigner de Dieu. Il utilise un peu toutes les incohérences que lui-même il crée, pour nous dire, voilà, ouais, il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu puisqu'il permet tout cela. Vous voyez la stratégie du malin dans laquelle beaucoup, et puis on les comprend, quand la croix s'approche de nous, on a vite envie de renier Dieu. Et du coup, Dieu prend la croix à son propre piège, le malin surtout. Donc il la prend à son propre piège et il se fait clouer sur la croix. Aussi pour que quand la croix s'approche de nous, on ressent encore plus sa présence. Donc voilà ce que disait Paul Claudel. Il est venu pour remplir la croix, la souffrance de sa présence. Et beaucoup témoignent, autant on a des personnes qui malheureusement s'éloignent de Dieu au moment de la croix, autant il y en a encore plus qui s'approchent de Dieu, qui se convertissent, qui rencontrent Dieu au moment de la croix. Donc vous voyez, c'est aussi un mystère de la présence de Dieu. Voilà, c'est une des raisons aussi, on va en parler, une des raisons pour lesquelles il fallait le fameux il faut de Jésus, c'est pour que Jésus soit toujours présent dans notre croix. Et vous allez remarquer peut-être tout à l'heure pendant la veillée de prière, nous ferons ce geste d'embrasser la croix sur laquelle il y a Jésus. Et au fait, pour ceux qui restent, et donc, au fait, vous allez remarquer qu'on ne peut plus embrasser la croix. C'est-à-dire qu'il y aura des espaces pour embrasser la croix, mais on va embrasser toujours Jésus. Et du coup, au fait, Jésus a couvert la croix de son corps. C'est ça aussi sa stratégie. C'est-à-dire, la croix, quelle qu'elle soit, il l'a couverte de son corps. Et au fait, ce qu'il y a derrière son corps, c'est notre croix. Ce n'est pas sa croix à lui. Souvent, on médite sur Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix, mais c'est tout le contraire. C'est Jésus qui a porté tout le temps la croix de Simon de Cyrène, et à un moment, il a laissé à Simon, voilà, juste la conscience de ce que Jésus porte à sa place. La croix que Jésus a portée, c'est la croix de Simon, c'est la croix de chacun de nous. Ce n'est pas Simon qui a aidé Jésus à porter la croix, c'est Jésus qui a porté la croix de Simon, et à un moment, il a juste permis à Simon de comprendre ce que Jésus a fait pour lui. Vous voyez, Jésus n'a pas de croix à porter, théoriquement. C'est nous qui devrons porter des croix pour mille raisons. Et du coup, c'est plus Jésus qui porte nos croix, et la croix sur laquelle il est crucifié, c'est notre croix, mais il l'a couverte de son amour, il l'a couverte de son sang, de son cœur et de son corps. Et du coup, nos croix sont couvertes de la présence de Dieu. Pour nous croyants, c'est toujours ça qui est le mystère, c'est vraiment le mystère de l'amour qui couvre la croix. Et c'est vraiment très improbable cette combinaison de la haine absolue, qui serait un peu le symbole de la croix, l'homme qui torture l'homme, et de l'amour absolu qui se rencontre, et donc qui deviennent l'un sur l'autre, inséparables, Jésus crucifié, et c'est juste pour le temps que nous, on passe chez lui. Il a voulu que pendant tout le temps de ce passage, les uns après les autres, de tous ses appelés, tous ses élus, que lui, il reste un peu avec son corps, avec son cœur, sur la croix, à cause de nous. Vous voyez, et c'est là, au fait, il y a quelque chose de très important qui s'opère à ce moment-là, c'est que, au fait, il y aura une sorte de changement de ce qui est beau. Au fait, la beauté n'est plus une apparence. Jésus était défiguré sur la croix, donc on ne parle plus de la beauté comme une apparence. Nous ne sommes pas beaux parce que nous sommes beaux en apparence. Jésus change profondément la définition de la beauté et il la remplace, la beauté devient une présence. Ce n'est plus une apparence, la beauté c'est une présence. Et du coup, à chaque fois que le Christ se rend présent, il nous rend beau. Et du coup, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, moi ça m'est arrivé de voir des pauvres beaux, parce qu'ils étaient pleins de la présence du Christ. Ils ne sont pas beaux, eux, dans leur apparence. Ils sont très beaux dans la présence qu'ils ont du Christ en eux, certains pauvres. Et du coup, ils nous attirent parce qu'ils ont un poids de la présence du Christ. Et c'est ça, pour revenir à certains qui posaient la question, pourquoi il y a des saints qui ont désiré la croix? Ils n'ont pas du tout désiré la croix, jamais. Ils ont désiré la présence du Christ. Ils ont désiré Jésus tellement que même s'il faut que ça soit sur la croix, tant pis. S'il est encore plus présent dans la croix, tant pis. Vous voyez, c'est vraiment une recherche de Jésus très intense, à laquelle nous ne sommes pas tous appelés, mais que certains ont été appelés juste pour montrer à quel point l'amour peut être puissant. C'est une démonstration de la puissance de l'amour. Ce n'est pas du tout une invitation à la souffrance. C'est montrer à quel point l'amour peut être tout puissant, vraiment. Jusqu'à dépasser ces choses qui, par définition, doivent nous éloigner. Ils deviennent attirants, non pour eux-mêmes, mais parce que Jésus est attirant. Et c'est seulement pour ça. Donc voilà. Donc, comme on disait pendant l'homélie, et c'est ça un peu, le matin on a parlé beaucoup de la souffrance, là on va un peu parler plus, parce qu'en elle-même, elle n'a aucune valeur. Encore une fois, saint Paul l'a répété d'une manière très forte dans l'hymne de la charité. Et donc, il cite des choses incroyables. Si je donne mon argent aux pauvres, si je brûle mon corps, il dit des choses extraordinaires qui sont des œuvres vraiment impressionnantes. Toutes des croix qui ne valent rien. Toutes ces croix ne valent rien parce qu'il n'y a pas la charité. Et donc, inversement, c'est la charité qui donne tout le poids aux plus petites croix. Et là, on a la grande petite Thérèse qui dit même ramasser une épingle par amour est un acte qui a infiniment de mérite. Donc, vous voyez, ramasser une épingle, c'est rien comme croix. Parce que c'est toujours une croix, quelqu'un a laissé tomber, je peux râler, je peux critiquer ou je peux ramasser. Quand je décide de ramasser, c'est comme si j'ai accepté la croix. Vous voyez, elle est toute petite, elle est minuscule, cette croix. Et pourtant, un amour immense peut transformer cette petite croix en une infinité de mérites. Donc, vous voyez, c'est juste les deux exemples extrêmes. Une croix très lourde, sans amour, ne vaut rien. Une croix très petite, avec beaucoup d'amour, vaut énormément. Donc, c'est l'amour qui donne la mesure à tous. Et c'est que ça. Donc, tout à l'heure dans l'homélie, on disait qu'au fait, c'est un triptyque. Et donc, c'est bien que les adorateurs soient avec nous aujourd'hui parce que vraiment, ça devient incompréhensible si on sépare la croix d'un côté du Sacré-Cœur, donc de l'amour, et de l'autre de l'Eucharistie, qui est ce transfert de vie. Et donc, pour comprendre vraiment le mystère de la croix, il faut toujours le lire d'un côté avec le cœur de Jésus, l'amour, et de l'autre avec l'Eucharistie, qui est vraiment le moyen, vraiment c'est un moyen que Dieu nous a donné pour transférer sa vie en nous. Donc il transfère sa vie en nous, il transfère surtout son amour en nous. Et dès qu'on détache un peu l'Eucharistie de la croix et de l'amour, ça devient un peu vide. L'Eucharistie, l'adoration, c'est une présence devant le mystère de la crucifixion et la résurrection du Christ. Donc on est adorateur pour adorer ce mystère et rien d'autre. On est devant ce mystère de la mort et résurrection du Fils par amour. Et du coup, on est en permanence, il faut du temps, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour creuser peu à peu ce grand mystère et qu'il devienne quelque chose que nous-mêmes on peut témoigner et pas seulement quelque chose qu'on nous raconte. C'est que ça devient nous qui témoignons de la puissance de ce sacrement. Et donc c'est la croix, elle doit nécessairement être entourée d'un côté du cœur de Jésus et de l'autre de l'Eucharistie. Encore une fois, parce que la gloire de la croix, c'est ce qu'on disait dans l'homélie, c'est nous. Jésus est glorifié parce qu'on est une cinquantaine aujourd'hui à avoir été sauvé par lui. C'est ça sa gloire. La gloire de Jésus, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et donc toute la gloire de la croix vient du fait qu'elle arrive à faire vivre d'autres personnes. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle est glorieuse, parce que elle permet de transférer la vie. Elle permet de donner la vie à d'autres personnes, à être féconde. Voilà, la croix glorieuse, elle est souvent représentée par un arbre de vie extrêmement abondant. Si vous avez en tête la mosaïque dans l'église Saint-Clément à Rome, avec énormément de créatures qui jaillissent de la croix. C'est ça, si elle ne donne pas la vie, elle n'est pas glorieuse. Donc c'est ça qui la rend glorieuse, c'est nous. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes l'homme debout et la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment très beau de voir à quel point nous témoignons par notre présence. Surtout aujourd'hui, surtout à une époque où beaucoup la culture ne nous pousse pas à croire, mais nous croyons quand même parce que nous avons été touchés par la croix, par l'œuvre de salut du Christ. Et c'est ça la gloire du Christ, c'est ça la gloire de la croix. Voilà. Et donc, au fait, il y a quelque chose un peu, voilà, c'est pas des vérités qui sont des dogmes, mais bon, c'est proposé à notre foi. Souvent, quand vous regardez les miracles eucharistiques, alors, ce n'est pas encore une fois des dogmes, mais bon, ils sont proposés à notre foi. Et très souvent, le miracle eucharistique, quand le pain consacré, l'hostie, devient réelle chair, vous savez qu'il y a eu des miracles dans ce sens, en fait, c'est très souvent le cœur. C'est très souvent un myocarde. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Jésus ne nous donne pas son corps, il nous donne son cœur, surtout. C'est-à-dire que c'est le corps et le cœur. Mais vous voyez, c'est vraiment, on communie au cœur de Dieu, parce qu'on communie à son amour. Et du coup, au fait, il y a quelque chose d'un peu important, et souvent, nous, on a un peu tendance à. C'est un peu, pardon du terme, c'est un peu des réminiscences du paganisme, de lequel on est tous imprégnés. On veut toujours aimer Dieu. On veut toujours faire des sacrifices à Dieu. Donc, on a l'impression que nous devons offrir des sacrifices, nous devons aimer notre Dieu, nous devons l'encenser, ainsi de suite. Et que tout cela, c'est bon. Il n'y a rien à changer par rapport à ça. Mais ce n'est pas la priorité. Dans le christianisme, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est Dieu qui veut faire un sacrifice de lui-même pour nous. C'est Dieu qui nous offre le sacrifice. C'est Dieu qui doit nous aimer en premier. Et souvent, nous sommes dans une attitude. Je dois aimer Dieu, je dois rendre des choses à Dieu, mais d'abord il faut recevoir. Et très souvent, nous avons du mal à aimer, nous avons du mal à avancer parce qu'on ne prend pas le temps de recevoir. On ne prend pas le temps de se laisser aimer avec une conviction profonde qui est une des plus grandes, un de nos plus grands doutes profonds. Est-ce que je suis aimé? Inconditionnellement, on ne pourra pas ouvrir ce thème, mais c'est une de nos plus profondes blessures de se sentir profondément aimé. Et du coup, ce sentiment d'être infiniment et inconditionnellement aimé, c'est ça le salut. Jésus ne nous sauve pas comme si c'était par magie. Il dit « Sois libéré » et il nous libère de telle chose. Non, il nous aime tellement que son amour nous libère. Il nous aime tellement que son amour nous libère. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'on est en train de découvrir. Combien beaucoup de dépendances, comment de beaucoup d'addictions, qui sont l'esclavage, le véritable esclavage, l'addiction. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a plein d'addictions. On ne parle pas seulement des dépendances les plus connues, la drogue et tout ça. Des addictions très, très profondes et très variées. Au fait, c'est par l'amour qu'elles guérissent. C'est par l'amour que des personnes réussissent à dépasser leur dépendance et leur addiction, leur esclavage. Donc vous voyez comment il nous sauve de la terre d'Égypte vers la terre promise par l'amour. C'est pas par un coup de baguette magique, c'est un sentiment d'être tellement aimé qu'on n'a plus besoin de cette affection, de cette fausse affection que nous procurent mille choses. On se remplit de tous ces genres de choses parce qu'on a besoin d'affection. On a besoin d'affection, un tel besoin d'affection qu'on ne peut même pas imaginer. Il est très très profond, notre besoin d'amour, que même pas nos parents, les plus parfaits au monde, ne peuvent nous procurer. Seul Dieu peut nous aimer comme Dieu aime, et comme l'homme a besoin d'être aimé. Et c'est pour ça qu'on peut se libérer de mille choses derrière lesquelles tout le monde court, parce qu'on ne court plus à être aimé, théoriquement. On ne cherche plus ces petites gouttes d'amour ici et là parce qu'on a besoin d'être aimé. Et du coup, on va chercher mille choses qui nous donnent ce sentiment d'être aimé, d'être bien. Donc voilà, donc du coup, juste pour vous dire que vraiment, avant d'arriver à... Chacun, on est très différent dans notre progression spirituelle, soit culturellement, soit individuellement. Mais avant de donner des choses au Christ, il faut d'abord qu'on reçoive beaucoup. Et à un moment, comme un enfant qui a été éduqué par ses parents longtemps, 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 à un moment, il devient adulte et à un moment, il va retourner soit à ses parents, mais souvent à d'autres, l'amour qu'il a reçu. Mais c'est une maturité, c'est pas tout de suite. Chacun sait où est-ce qu'il en est de son parcours spirituel. Et puis, c'est jamais tout ici et tout là. On a toujours besoin, même quand on a atteint une maturité spirituelle qui nous pousse à donner, il faut qu'on reçoive jusqu'au bout. Et le jour où on ne reçoit plus l'amour, on ne pourra plus le donner, on le fera soit par habitude, on devient ritualiste, on fait les choses, voilà, parce que c'est mon service que j'ai pris il y a 10 ans, mais je continue à le faire. Bon, j'y mets plus de cœur, je mets plus d'esprit. Voilà, nos prières sont, voilà, habitudes. Donc tous nos engagements deviennent un peu des habitudes, ce qui n'est pas très mauvais, parce qu'il y a une part d'habitude dans toute vie. N'empêche, quand ça devient trop rituel, on a perdu l'esprit, quoi. Et donc, il faut revenir à se remplir. Il faut se remplir, il faut se remplir. Et voilà. Donc,
c'est normal d'être toujours en attente d'amour.
Oui. On est des hommes, donc on a besoin d'être aimé. Et puis, je dis tout de suite, et c'est là, ça, c'est une des plus grandes conversions qu'on doit vivre, c'est que... Pardon, je vais peut-être vous choquer, mais c'est un peu des fois, il y a des besoins de phrases choc. On a beaucoup, beaucoup à nous améliorer dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je ne pense pas, moi je rêve du jour où quelqu'un viendra me dire « C'est à l'amour qu'il y a entre vous que je vous ai reconnu comme disciple du Christ. » Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « Tiens, franchement, c'est très beau de vous voir vous aimer comme ça. Vous devez être chrétien. » Thank you. Ça m'est jamais arrivé. J'attends le jour où vraiment quelqu'un comme ça viendra me témoigner en me disant « Vous devez être chrétien, vous, parce que vous savez aimer, et pas parce qu'on a, on s'est prié, et pas parce qu'on a une morale, je ne sais comment, et pas parce qu'on est vertueux. » C'est pas du tout ça. C'est parce que vous savez aimer. Et ça se voit que vous savez aimer, et que vous vous aimez entre vous. Et ça, c'est une autre question, un autre point. Souvent, c'est notre fondateur qui dit ça, si je ne me trompe pas. Dans la lettre, dans les actes des apôtres, si je ne me trompe pas, ils ne disent pas « Regardez comment ils nous aiment ». Ce n'est pas notre amour vers les pauvres, vers l'extérieur qui dit que nous sommes chrétiens. Ça, une ONG sait faire. C'est l'amour entre nous. Regardez comment ils s'aiment et pas comment ils nous aiment. Regardez comment ils s'aiment. Vous voyez, donc, alors que nous, on sait aimer vers l'extérieur, mais ça, c'est un peu, des fois, c'est un peu de l'humanisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens, même pas au nom du Christ, ont un cœur humain qui leur fait sentir la compassion vers d'autres humains et il les met au service des autres humains. Par contre, nous aimer réellement, comme Christ nous a aimés, puis il rajoute ça, ce qui veut dire tout ce que ça veut dire, ça, on a de la progression à faire. Donc, il faut, c'était par rapport à ce que vous avez dit, qu'il faut qu'on reçoive l'amour du Christ. Mais malheureusement, et c'est là où voilà, ça peut être un peu choquant, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de l'amour des uns des autres. Et si dans notre communauté, on dit toujours, on renvoie juste à l'amour qui nous vient du Christ, Jésus n'a pas voulu que ça soit suffisant. Ça aurait pu être suffisant. Mais il veut que notre cœur se désaltère aussi de l'amour qu'on reçoit de la communauté et pas seulement de lui. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Il aurait pu nous désaltérer totalement avec son amour, mais il a voulu que ça ne soit pas suffisant pour que l'amour qu'il y a entre nous vienne compléter cet infini besoin d'amour qui est dans notre cœur, qui est immense, immense, immense. Vraiment, il y a que Dieu et la communauté qui peuvent le combler. Donc voilà. Alors là, on va faire un petit, c'est pas un chemin de croix entre guillemets, mais une petite méditation sur ce il faut de la croix pour comprendre un peu pourquoi il faut. Alors c'est un peu en vrac, il n'y a pas d'ordre de priorité dans les idées, c'est pas les plus importantes d'abord et les moins importantes après. Il n'y a pas de classification dans. Voilà. Donc ce il faut, au fait, c'est. Ça concerne un peu ce qu'on vient de dire. C'est quelque chose qui est resté un grand mystère pour nous jusqu'à la croix. Et au fait, c'est seulement la croix qui a permis de révéler ce mystère. C'est encore une fois le cœur de Dieu. Si vous voyez l'Ancien Testament, qui reste absolument valable, et que voilà, ce serait très faux d'opposer Ancien et Nouveau Testament, n'empêche, au fait, il y a un événement majeur qui vient éclairer tout l'Ancien Testament, c'est le coup de lance. Le coup de lance. Le coup de lance qui, au fait, a ouvert le cœur de Dieu. Et c'est vraiment pas rien, et je pense que Saint Jean, en tout cas le recteur de Paray-le-Monial, qui est le lieu où il y a eu l'apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite-Marie, il le dit, Saint Jean, il lui a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il a vu au moment de la croix. On ne réalise pas tout de suite ce qu'il y a eu au moment de du cœur transpercé du Christ. C'est pour ça, dans le christianisme, on a besoin de contemplation, d'heures de silence, parce que les mystères sont tellement énormes qu'on ne peut pas les saisir tout de suite. On ne peut pas tout de suite comprendre tout ce qui s'est joué à ce moment-là quand un soldat a ouvert le cœur de Jésus-Christ. C'est énorme comme moment, comme événement. C'est très, très, très profond. Tellement profond qu'il nous envoie directement dans le cœur de Dieu. Il n'y a rien de plus profond, on est dans le cœur de la Trinité. Quand le cœur de Dieu devient visible, parce que c'est un peu ça le symbole, le cœur de Dieu est mis à jour, c'est un peu ça le symbole de la lance, et il ouvre le cœur de Dieu, donc il le met à jour devant nous, à jour dans le sens de... voilà. Et qu'est-ce qu'on voit quand le cœur de Jésus est ouvert ? On voit qu'il n'y a rien, rien à part de l'amour, rien. Il n'y a aucun cri de vengeance, il n'y a aucun cri de justice, il n'y a aucun cri de revendication, il n'y a aucune malédiction, il n'y a rien. Il n'y a que de l'amour qui jaillit de ce cœur. Et ça, on a beaucoup de mal à le croire. On a beaucoup de mal à être certain que Dieu n'est que amour. Et il a fallu qu'on regarde le cœur, qu'il nous dise, mais regarde, j'ai ouvert mon cœur pour toi, et regarde, tu doutes encore de ce que je veux pour toi, tu doutes encore de ce que j'ai préparé pour toi. Et donc c'est parce que effectivement, soit le paganisme, soit un manque de maturité spirituelle, mais surtout parce que Dieu n'avait pas encore révélé qui il était, on est imprégné de beaucoup de doutes sur Dieu. Est-ce qu'il va me punir? Est-ce qu'il va me sauver? Est-ce que vraiment il m'aime? Voilà, on a des doutes sur Dieu et du coup ce cœur ouvert est un moyen pour que nous puissions vraiment regarder de nos propres yeux. Et ce n'est plus quelqu'un qui nous raconte, mais qu'on puisse regarder de nos propres yeux, mais quel est le secret le plus profond de Dieu? Quel est le secret le plus profond de Dieu? Et c'est pas étonnant que ce soit Saint Jean qu'il dit en disant Dieu est amour. Parce que c'est lui qui a vu. Il a tellement regardé, il a dit, mais il n'y a rien, il n'y a que de l'amour. On ne peut plus rien dire, Dieu est amour. Tellement qu'on accuse très souvent Saint Jean, et je pense que je vais finir comme lui. On dit que Saint Jean, quand il était vieux, il radotait un peu. C'est-à-dire, il n'arrêtait pas de répéter Dieu est amour, aimez-vous. Et je sens que je suis son chemin parce qu'à un moment, quand on a compris ça, on n'a plus rien à dire. On se met à répéter ce mot, aimez-vous, on est Dieu qui est amour. Dans 30 ans, si on fait une retraite ensemble, ce sera que ça. Oui, mais oui, parce que c'est vraiment pas facile. C'est tellement difficile de croire à ça. Et on le dit, Dieu est amour, on le répète, mais vraiment que ça devienne une réalité pour moi, ça, c'est il faut du temps, il faut beaucoup de temps parce qu'il faut aussi que mon cœur soit transpercé. Voilà. Après, pourquoi Dieu, il a donc pourquoi la croix, pourquoi il faut la croix? Parce que, et donc encore une fois, il n'y a pas d'ordre de priorité dans ce que je vous dis, mais c'est aussi parce que Jésus a voulu lancer une onde de choc, de pardon dans le monde. Des fois, il faut qu'on fasse un peu, c'est pas très facile, mais qu'on fasse l'effort de dire, mais s'il n'y avait pas Jésus, où est-ce qu'on serait? S'il n'y avait pas eu Jésus, où est-ce que serait le monde? Ou nous, pour ne pas parler du monde. Je ne sais pas vous dire, mais ça doit être quelque chose d'effrayant. D'effrayant, l'an 2000 qui n'est pas après Jésus-Christ, l'an 2000 sans Jésus-Christ, 2019, à mon avis, ce serait un désastre total de jungle. Je pense qu'on serait vraiment dans une jungle, dans une grande, grande jungle, dans un grand chaos où les plus forts dominent sur les plus faibles, où on est tous, et c'est ça au fait l'onde de choc dont je vous parle, parce que, au fait, on est obligé. Quand on subit la souffrance, de la transmettre. Quand on subit l'injustice, on est presque obligé de la transmettre. C'est très difficile, humainement, pour ne pas dire impossible, de subir une injustice et de ne pas la transmettre sur quelqu'un de plus faible. Vous voyez, c'est-à-dire, on a toujours cette pyramide sociale, bien belle, où les plus forts pèsent sur les plus faibles, et du coup, les plus faibles nécessairement pèse sur plus faible qu'eux. Et donc on a les plus faibles qui sont en bas de la pyramide, qui portent tout le monde et qui subissent tout ce poids de nous tous sur eux. Et du coup, plus on est en bas, et plus vous imaginez à quel point le poids peut devenir lourd. Et ça, c'est comme ça, on ne peut pas le changer, c'est notre monde. Voilà. Et donc Jésus, il est venu pour renverser cette pyramide, pour renverser cette pyramide et pour devenir lui. Celui qui porte tout, vous voyez? Et du coup, il va au contraire, il va lancer donc une autre onde de choc qui est le pardon, la miséricorde, où au fait, il va inviter ses disciples à neutraliser dans leur cœur l'onde de choc de l'injustice qu'ils subissent eux-mêmes. Et ce qui va se passer dans le cœur de chacun de nous, on va subir l'onde de choc de l'injustice du monde. On va subir l'onde de miséricorde de Jésus-Christ dans notre cœur. Et des fois, pas tout le temps, c'est la miséricorde qui va gagner dans notre cœur. On va décider dans notre cœur de ne pas transmettre, de ne pas faire subir aux plus faibles ce que nous avons subi des plus forts. Vous voyez, donc ça va neutraliser dans notre cœur, et notre cœur devient comme une sorte d'usine, de paratonnerre, et qui, au fait, d'un coup, va recevoir les ondes de choc qui viennent du monde, et on ne peut pas les éviter. De l'autre, l'onde de choc envoyée par Jésus-Christ, et ça va les neutraliser. Et dans notre cœur, certaines fois, pas tout le temps malheureusement, parce qu'on reste humain, mais des fois, on va arrêter cette injustice, on ne va pas la faire subir aux plus faibles. Et du coup, voilà, vous voyez comment il a gagné, c'est-à-dire il a envoyé dans le monde une infinie miséricorde, un océan infini de bonté, de miséricorde, de pardon, que ceux qui boivent à cette eau, ils deviennent un peu immunisés, pas 100%, mais quand même, contre tous ces virus du monde, toutes ces attaques de l'autre côté. Et voilà, donc du coup, il a aussi voulu mourir sur la croix pour, voilà, pour dire, il n'y a pas plus grande injustice au monde que la croix, ça c'est clair. Il n'y a pas plus grande injustice, personne de nous et personne au monde peut dire, j'ai été traité d'une manière plus injuste que Jésus-Christ. Car nous avons tous fait le mal, donc au moins on le mérite un peu le mal, au moins. Alors que lui, pas du tout. Donc du coup, nécessairement, c'est celui qui a subi le plus d'injustice. Et du coup, en neutralisant dans son cœur cette injustice et en l'art, en renvoyant dans le monde cette onde de miséricorde, en fait, il a sauvé le monde, il nous a sauvés. De cette transmission un peu, voilà, de cette, que vous avez compris. Alors, puis après, aussi, il y a quelque chose bon, qui est en lien avec ce qu'on a dit au début, c'est que, au fait, je vais vous dire aussi un peu d'une manière cruelle, mais ce n'est pas grave, crue en tout cas, pour grandir, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus ne l'a pas dit, mais il l'a rajouté par ses actes. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais on a de sang. On vit de sang. On a besoin de boire du sang. Et alors, ce mot un peu cru veut traduire seulement que pour grandir sainement, on a besoin dans notre entourage de quelqu'un qui nous aime plus qu'il ne s'aime. C'est, nous avons besoin, un enfant qui grandit a besoin de sentir pendant toute une période que ses parents l'aiment plus qu'ils ne s'aiment. Et d'ailleurs, c'est là où il y a beaucoup de blessures psychologiques, parce que nos parents sont limités. Mais la plupart des gens que vous entendez qui sont très blessés, c'est parce qu'ils ont senti que leurs parents, des fois, se sont aimés plus qu'ils les ont aimés. Voilà, il y a toujours cette accusation. Bon, ils sont aussi limités, donc voilà, nous n'aurons pas fait mieux. On n'aura pas fait mieux. Mais on a besoin, ça prouve que l'homme a besoin de cet amour inconditionnel pour grandir sainement. Il a besoin, à un moment, qu'il ait quelqu'un dans son monde qui ne pense plus à lui-même, mais qui pense seulement à l'enfant. Et ça nous donne une sorte d'assise humaine très forte. Et d'ailleurs, on le remarque, même sur le plan humain, plus l'enfant est aimé, plus il devient solide. Voilà. Et du coup, ce qui nous rend solide, c'est d'être aimé jusqu'au point que quelqu'un s'est sacrifié pour nous. Ça, ce mot, qui devient un mot très... On va en parler pour conclure, un peu pas très bien compris, mais c'est vital, le sacrifice, en tout cas dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, tel qu'on est, on ne sait pas le monde... Dans l'absolu, est-ce qu'il aura besoin de sacrifice? Peut-être pas. Mais dans le monde dans lequel on est, le sacrifice est vital. Est vital dans le sens où c'est lui qui donne la vie. Et du coup, on a besoin, nous, pour grandir sainement, de quelqu'un qui se sacrifie pour nous. Et du coup, Jésus s'offre lui-même comme ce cœur qui ne pense pas à lui, mais qui pense à nous avant tout. Et il nous nourrit tellement de ça que, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment, on devient assez mature pour, à notre tour, un tout petit peu imiter son amour. Un tout petit peu. Mais encore une fois, c'est vraiment, nous avons besoin de boire du sang. Nous en avons besoin. Et donc, à chaque fois que vous allez à la communion, vraiment soyez conscient que c'est tout l'amour du Christ qui rentre en vous. C'est vraiment ça, la communion, et je vous en parlerai tout à l'heure, encore une fois, de la sponsalité, mais c'est un acte sponsale, la communion. C'est-à-dire, c'est un acte d'amour très profond qu'on reçoit le sang du Christ. Et donc, c'est tout son esprit, toute son âme, sa divinité et surtout son amour qu'il nous donne à ce moment-là, quoi. Donc, voilà. Puis, alors après, une aussi peut-être des raisons pour ce fameux « il faut » que le Christ meure pour nous, c'est que on a du mal à comprendre qu'est-ce qui s'oppose vraiment à l'amour. Et au fait, la vie de Jésus, c'est l'histoire de l'amour. C'est comme si, c'est pas comme si, c'est l'amour qui devient homme. Et comme nous, l'amour, c'est très abstrait, on n'arrive pas à comprendre exactement comment fonctionne l'amour. C'est quelque chose de très compliqué, de très subtil. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait grandir l'amour et qu'est-ce qui le tue. On a du mal un peu à connaître l'amour. Donc l'amour s'est fait homme pour que nous puissions mieux comprendre ce grand mystère qu'est l'amour. Ce très grand mystère qu'est l'amour. Et du coup, qu'est-ce qui nous explique cet amour devenu homme ? C'est que ce qui tue le plus l'amour, c'est pas l'adultère, c'est pas le vol, c'est pas les publicains. Au fait, quand vous regardez l'évangile, il faut imaginer que Jésus, c'est l'amour, et ce qu'il y a autour de lui, c'est, disons, les péchés, voilà. Donc, il y a Marie-Madeleine, c'est la prostitution, Matthieu, c'est le publicain, Zachée, c'est la richesse. Voilà, vous voyez, c'est des gens qui incarnent eux aussi des choses plutôt négatives. Et ce qui est génial, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que, au fait, c'est ni Zachée, ni Marie-Madeleine, ni Matthieu qui tuent Jésus. Donc, c'est ni l'adultère, ni le vol, ni l'amour de l'argent qui tue l'amour. Qu'est-ce qui a tué Jésus ? Qu'est-ce qui a tué l'amour, finalement ?
Pardon ? La religion, la parole.
Non ? Oui ? L'hypocrisie, les pharisiens. Les pharisiens, le pharisaïsme. Le pharisaïsme. Ça, c'est ce qui tue l'amour en nous. Ce n'est pas nos péchés, parce que Jésus sait comment nous guérir des péchés. Vous voyez, les péchés sont évidemment très graves, blessent l'amour, mais l'amour meurt pour ses péchés. Il ne meurt pas à cause de ses péchés. Jésus a donné sa vie pour Marie-Madeleine, il a donné sa vie pour Zachée, il a donné sa vie pour Matthieu. Il sait guérir ces choses. Il est là pour les guérir d'ailleurs. Il est venu pour guérir des péchés. Donc là, il sait faire. L'amour, il sait gérer ce genre de choses. Par contre, le pharisaïsme, jusqu'au bout, il résiste à l'amour. Jusqu'au bout. Donc la seule chose... Et beaucoup de gens ne confessent pas ça. La seule chose que nous devrons beaucoup comprendre, analyser, approfondir, c'est qu'est-ce que le pharisaïsme ? Qu'est-ce que le pharisaïsme ? Ça, c'est quelque chose que nous devons approfondir beaucoup. Parce que ça, c'est dangereux pour l'amour. Parce que si le pharisaïsme nous atteint, on ne va plus pouvoir aimer. Il va tuer l'amour dans notre cœur. Et donc, le pharisaïsme, alors là, on ne va pas faire sur le pharisaïsme, mais bon, on voit, c'est l'hypocrisie, c'est la double vie, c'est se sentir meilleur des autres, c'est se glorifier de nos vertus. Vous voyez, les pharisiens, on a une pléthore de choses à dire sur les pharisiens. Et ça résiste à l'amour, ça tue l'amour. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui vraiment peut être, du coup, mortel. Mortel dans le sens, ça tue l'amour, et puis qu'est-ce qui reste ? Et donc, du coup, le pharisaïsme, c'est quelque chose que nous devons comprendre encore beaucoup, beaucoup. Et peut-être, ça c'est vraiment personnellement que je dis ça, peut-être qu'il a fallu que l'Église passe par cette crise que moi je trouve très bénéfique. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de vivre. Et j'espère que s'il faut qu'on reste aussi peu nombreux, voilà, pour qu'on soit aussi humble et aussi sympa, tant mieux. C'est-à-dire que, parce qu'à un moment, on était devenus très puissants, très glorieux, on a eu triomphalisme, ainsi de suite. Et ça, c'était peut-être, on a frôlé le pharisaïsme. Dans l'Église, je parle, peut-être. Hein. Franchement, je parle personnellement, donc là, c'est enregistré. Mais peut-être que sans s'en rendre compte, dans le passé, on est tombé dans le pharisaïsme. Quelque chose qui ressemble à du pharisaïsme. Et du coup, ben, tant mieux qu'on se purifie de ça, si ça coûte ce qu'on est en train de vivre, parce que là, l'Église est plus humble, l'Église est plus humaine, l'Église est plus ouverte. Voilà, vous voyez, l'Église est en train quand même d'évoluer pas mal. Donc, tant mieux, tant mieux. Pardon? Ouais. 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 Alors, ce qui est vraiment, ouais, ce qui est très intéressant avec Dieu, et là, encore une fois, c'est, je parle personnellement, donc à chaque fois que je parle comme ça, voilà, c'est que des fois, Dieu, il permet le péché pour sortir du pharisaïsme. Il y a, alors, je ne sais pas, Cassien, c'est, je pense, Origène, mais je ne suis pas certain, qui dit quelque chose qui ressemble à ça, puis je vous retrouverai la référence si ça vous intéresse. Il dit, des fois, le Seigneur laisse une âme dans le péché jusqu'à ce qu'elle sorte du pharisaïsme. C'est-à-dire que des fois, le Seigneur, bizarrement, permet des péchés moins graves, tels que les péchés graves qu'on a cités, hein, c'est-à-dire l'amour de l'argent, voilà, tous ces genres de choses, l'adultère, des choses, parce que autant ça que le pharisaïsme, pour humilier l'âme, voilà, c'est son idée, pour dire que des fois, le Seigneur peut se servir de péchés que nous, on considère très graves, pour tellement humilier l'âme, humilier dans le sens positif, la faire grandir dans l'humilité, et lui éviter le vrai danger mortel qui est le pharisaïsme. Regardez comme je suis saint, regardez comme je suis vertueux, je fais tout juste, voilà, hop, du jour au lendemain, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on perd le contrôle, on commence à voler de l'argent, je dis n'importe quoi. Mais pour dire des fois, en tout cas selon Origène, Dieu peut permettre certains manquements moins graves que le pharisaïsme pour nous éviter ce grand danger, quoi. Ok, bon. Pardon? Ouais, aussi, oui. Oui. Mais en tout cas, il y a beaucoup à dire là-dessus sur le pharisaïsme, évidemment, mais on a très peu parlé du pharisaïsme, il faut l'avouer. En 2000 ans, j'ai rarement trouvé des traités sur qu'est-ce que le pharisaïsme, quoi, pour le comprendre à fond. Oui.
Mais moi, qu'est-ce qui me vient, vous l'avez dit, c'est la parole qui vient, vous l'avez dit, là où le péché a surabondé,
Oui.
a abondé la
La grâce a
grâce.
surabondé. Voilà, exactement. C'est très vrai. Voilà.
Est-ce que ce ne serait pas aussi subtilement le pharisaïsme, je dirais personnel, le contentement de se suffire à
Oui,
soi-même?
oui, oui. Oui,
Je remarque beaucoup ça chez des personnes
oui. Oui,
en cheminement.
oui.
C'est comme je peux me recevoir de moi-même.
Ouais, c'est le pélagianisme, ça s'appelle un peu, c'est-à-dire c'est le fait que moi, avec mes efforts, et, mais même des fois des chrétiens, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens pas chrétiens, et qui sont, ils vont parler de la grâce. Le pape François, il parle souvent du pharisaïsme, lui, du coup, sans trop le définir. Mais il dit, il y a plein de gens qui nous parlent de la grâce, et moi j'en connais des grands théologiens qui, à la longueur de journée, nous parlent de la grâce, mais au fait, ils croient que c'est eux qui sont forts. Profondément, on le sent à beaucoup de choses, vous voyez, sans rentrer dans voilà, mais on sent qu'ils sont quand même très certains que c'est grâce à leurs efforts, plus qu'à la grâce, même s'ils parlent de la grâce, hein. Ils vont beaucoup citer la grâce. Ouais, ils vont beaucoup parler de la grâce, c'est pas quelqu'un qui ne parle pas de la grâce, il va dire c'est grâce, la grâce qui nous sauve, la grâce, tadadana. Mais intérieurement, et à quoi on le voit quand on juge les pécheurs? Dès qu'on pense que c'est nous qui sommes un peu responsables de, voilà, de notre situation debout, on se dit, voilà, regardez comment je suis debout. Au fait, si l'idée vient que c'est nous, au fait, automatiquement et presque obligé, on va juger ceux qui sont par terre. On va pas les soulever. Vous voyez, c'est le bon samaritain, le prêtre à côté du blessé qui ne va pas s'arrêter. Parce que c'est de sa faute, s'il a été frappé, il l'a bien mérité probablement, il est blessé. Les raisonnements intérieurs pour justifier de ne pas s'arrêter sont infinis. Vous voyez? Or, le bon samaritain se voit lui-même dans le blessé. C'est-à-dire, il s'identifie au blessé. Il dit, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Je ne suis pas à l'abri de me retrouver comme cette personne. Je suis ce que je suis seulement par la grâce de Dieu. Sinon, le pape, il dit, moi, je peux être prisonnier. Quand il va visiter en prison les gens, il dit, mais moi, j'ai rien de plus que ces gens. J'aurais pu très bien être en prison. Il est convaincu que s'il n'est pas en prison, mais profondément, c'est parce qu'il a été préservé. Convaincu. Donc ça, c'est important. Bon, assez avec le pharisaïsme. Et puis, donc, pour finir un peu, juste une chose aussi, parce que la miséricorde, et souvent on a ce débat incroyable entre miséricorde et justice, on a l'impression que quand on tire d'un côté, on enlève de l'autre, et la justice, et alors, et vous savez les débats, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se sont levées contre le pape lors de l'année de la miséricorde, ou voilà, pour que ça, c'est un peu trop mièvre, c'est un peu trop facile... Ça, c'est un argument pharisien, c'est trop facile en général. Ils n'aiment pas la facilité. Mais
il ne faut pas faire d'efforts non plus pour atteindre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on a un peu, c'est-à-dire qu'on a des nuances de pharisaïsme, on est tous un peu atteints, mais on a l'impression que quand c'est trop facile, ça ne nous donne plus de la joie. On a envie d'être un peu applaudi quand même. Quand c'est gratuit, on n'a aucun mérite, c'est triste, on a besoin d'un peu d'être admiré. Bon. Et donc, n'empêche que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, la justice, merci. Merci. Oui, et donc, du coup, au fait, la miséricorde, elle n'annule pas la justice. Vraiment, et ça, c'est pour ça, Zacharie, le prophète, il dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Jésus, alors la théologie de la substitution, il faut la prendre avec des pincettes, mais elle est valable. C'est-à-dire, il a vraiment pris notre place. Alors j'hésite à dire cela pour ne pas trop rentrer dans la substitution qui a été un peu trop débattue. C'est-à-dire que voilà, mais n'empêche, il y a quelque chose de ça. C'est nos péchés qui sont sur lui. Vous voyez, c'est nos péchés qui sont sur lui. Et comme je vous disais, comme l'amour est quelque chose d'énorme qu'on n'arrive pas à comprendre, qui est tellement infini qu'on n'arrive pas trop à le saisir, Jésus est l'amour fait à notre taille. Et donc on arrive plus à comprendre l'amour, et Jésus nous montre ce que le péché fait à l'amour. Vous voyez, ce que fait le péché à l'amour, c'est ça, c'est la flagellation, c'est la croix. Et donc il nous montre... C'est-à-dire que vous savez, quand on ne comprend pas quelque chose, il y a quelqu'un qui dit « je te fais un dessin ». Et donc c'est ça. C'est pour nous montrer d'une manière... Pardon pour la... Mais c'est pour nous montrer d'une manière très imagée et du coup plus accessible à notre esprit les conséquences du péché. Comment le péché blesse l'amour. Vous voyez, et du coup, ça va créer, plus on va méditer dans notre cœur, et c'est jamais une bonne fois pour toutes. Et plus on va méditer dans notre cœur sur cette croix, plus va grandir dans notre cœur la haine du péché. On va commencer à détester le péché. Parce que, et c'est là aussi quelque chose qu'on doit un peu avouer, on aime un peu le péché. En tout cas, le péché... Pardon ?
On va commencer à détester le péché qui est en nous,
quoi,
le péché des autres, le péché
qui est en nous. Oui, mais il y a une satisfaction aussi qui est dans notre péché. Tout péché nous procure un peu de satisfaction. Il y a une partie belle dans le péché, il ne faut pas la renier. Vous voyez, c'est-à-dire, on aime un peu notre péché. Si on le détestait vraiment, ça serait beaucoup plus facile de s'en débarrasser. Si on met tellement de temps à s'en débarrasser, c'est qu'on l'aime un peu. On aime un peu être paresseux. On aime un peu la colère qui impose notre avis sur les autres. Vous voyez, c'est-à-dire notre péché nous procure du bien. Il ne faut pas... voilà. Et du coup, cette partie belle du péché qui est quand même comme l'hameçon, donc voilà, qui nous attire, et à laquelle c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à s'en sortir, c'est qu'on est attaché à cette partie belle. Jésus essaye par la croix de nous la faire détester. Parce que... Alors ça, c'est pas du pharisaïsme ni du pélagianisme, parce que c'est vraiment une grâce, mais quand on regarde la croix, ce qui se passe dans notre cœur, c'est que on veut de tout notre cœur ne plus pécher. On déteste le péché, vous voyez, et donc c'est ça qui nous fait qu'à la fin on le vainc. On va le vaincre parce qu'on le déteste, parce qu'on le veut plus. Et Jésus, par sa croix, il va augmenter ce sentiment dans notre cœur. Il va nous pousser à détester au maximum le péché. Et puis, c'est jamais une bonne fois pour toutes, malheureusement, parce que nous, c'est comme des vagues, vous savez. On s'approche, et puis on s'éloigne. Et puis voilà. Et du coup, ça, je me permets juste pour vous dire une chose importante. C'est pas important dans notre vie spirituelle de ne pas pécher. C'est évidemment très important, mais il y a quelque chose de plus important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un amour dans ma vie qui me fait toujours revenir? Vous voyez, un homme, je prends un exemple classique, tout bête, un homme qui a commis l'adultère, ok, c'est très grave, mais est-ce que c'est plus important s'il vient confesser chez moi? La question que je vais lui poser, je lui dis, mais est-ce qu'il y a un amour dans ta vie qui te permet de dire, je ne veux plus refaire ça? Il peut me dire oui pour mes enfants, oui pour ma femme, oui pour Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le plus important de résister au péché, ce qui reste valable, mais c'est encore plus important de voir, mais est-ce qu'il y a un amour dans ta vie qui te fait toujours revenir? Vous voyez, pour reprendre cet exemple du père, qui peut-être va voir les prostituées, au fait, le plus important, c'est de vérifier, est-ce qu'il a quelque chose qui le fait retourner? Vous voyez, c'est ça le plus important. Ce qui nous sauve, c'est l'amour qui nous fait toujours revenir. Qui nous fait toujours revenir. Je reviens, Seigneur, je reviens. Il est très difficile actuellement de ne pas partir. Par contre, il est obligatoire de toujours revenir. Vous voyez, de ne pas nous éloigner. On est paresseux, on est tiède. Et pendant un an, je dis l'office, mais vraiment d'une manière totalement habituelle. C'est pas possible de faire autrement. C'est grave, mais le plus important, est-ce qu'il y a encore dans ton cœur de l'amour qui te fait revenir à ton enthousiasme et à ton amour premier? Vous voyez?
Comme le fils aîné qui voilà. Revient vers son père.
Oui, exactement. Ça sera demain. C'est l'évangile de demain. Voilà. Donc, du coup, la miséricorde, donc c'était ça le point, n'annule pas la justice, elle l'assume. Voilà, et je finis, je conclue, puis on aura 5 minutes pour les questions. C'est que quelque chose qui serait un thème d'une retraite, mais je vous ouvre juste comme on fait en général sur les conclusions, parce qu'au fait, hier on a fait un thème qui était un peu à part, la gloire. Demain on fera un thème un peu à part qui est Marie, et donc c'est toute l'image de la compassion, et pas la passion, mais la compassion. Donc on va aborder le mal par l'angle de la compassion, parce que demain c'est Notre-Dame des douleurs, donc on va voir comment la compassion participe aussi, voilà, donc ça sera demain. Donc aujourd'hui on a comme une journée, et d'ailleurs les adorateurs ont comme ça quelque chose qui, voilà, tient, et du coup on va conclure un peu sur ce thème avec une ouverture sur, au fait, la sponsalité. La sponsalité, c'est-à-dire, et Saint François Xavier et beaucoup de saints mystiques, ils ont beaucoup parlé du Golgotha comme le lieu des fiançailles, où Jésus se révèle comme l'époux. Et donc, il est l'époux au Golgotha surtout. Vous voyez, c'est dans ce moment précis de la crucifixion et encore une fois du coup de lance que Jésus révèle profondément son identité d'époux. Époux de tout le monde. Et au fait, là, du coup, c'est vraiment, encore une fois, c'est un sujet d'une retraite, mais juste pour lancer quelques réflexions sur le sujet. Au fait,
vous allez revenir au Québec?
Pardon?
Oui, vous allez revenir au Québec?
J'espère. Parce que, au fait, l'époux, alors, encore une fois, je vais peut-être dire des choses qui ont besoin d'être plus détaillées, mais je l'ai dit juste comme ça, comme des titres. C'est l'époux qui nous sauve des idoles. Au fait, en deux mots, tant qu'on n'a pas reçu le Christ comme un époux, c'est-à-dire comme celui qui donne sa vie pour nous, c'est ça la définition de l'époux, on va presque nécessairement idolâtrer quelqu'un. On cherche tous un époux, et je parle même les gens mariés, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà, qui a besoin d'être expliqué, mais je vous le dis maintenant. l'époux est nécessaire, comme je disais, pour notre construction humaine et spirituelle. Donc quand je ne rencontre pas l'époux, je vais idolâtrer quelqu'un. Je vais peut-être idolâtrer mon enfant, je vais idolâtrer mon époux, je vais idolâtrer mes parents. Et idolâtrer, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter mes j'ai le mot en anglais, en italien, mais pas en français, mes attentes, voilà. Mes attentes d'une manière fausse. C'est-à-dire, je vais demander à mon fils, mon mari, mes parents, de combler tous mes besoins. C'est ça l'idolâtrie, c'est que je vais avoir des attentes tellement fortes vis-à-vis de cette personne. Et en tout cas, ce n'est pas bon, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer deux choses. Cette personne est tellement bonne et forte qu'elle arrive à subvenir à mes attentes, et ça devient une vraie idolâtrie, des relations fusionnelles entre mère et enfant, entre mari et femme, entre enfant et parent. Et ça devient une relation tellement fusionnelle parce que l'un s'attend à quelque chose, l'autre, par sa force de caractère, y arrive à répondre. Et du coup, c'est pas bon. Et évidemment, quand l'autre n'y arrive pas, c'est pas bon non plus parce que je suis toujours déçu. Je suis toujours déçu de l'autre. Je m'attends que l'autre me comprenne toujours, soit toujours présent à côté de moi, comprenne tous mes besoins affectifs, me demande toujours pourquoi tu vas pas bien. Il doit deviner tout seul que je vais pas bien. Mais ça, c'est pas le mari, c'est pas l'enfant, ça c'est Dieu. Je demande à des personnes ce que seul Dieu peut donner. Et du coup, c'est comme ça que le Christ époux me sauve de l'idolâtrie, me sauve de vouloir un peu trop peser sur les autres, et aussi de l'autre côté, de ne plus me présenter moi comme idole pour les autres. Parce que l'idolâtrie, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je vais idolâtrer quelqu'un, mais aussi je vais moi être l'idole de quelqu'un. Parce que je vais prétendre que je vais pouvoir la comprendre, l'écouter indéfiniment, lui donner toute l'affection qu'elle veut. Nous, on doit faire beaucoup attention, les consacrer, parce que, évidemment, les gens peuvent des fois nous renvoyer cette idée-là, et non, il faut toujours qu'on le renvoie au Christ. Et c'est ça, Saint Jean-Baptiste. Et voilà ce qui fait qu'il faut en permanence qu'on se retire pour éviter les confusions, quoi. Pour éviter les confusions. Et voilà, mais pas seulement nous, les chrétiens, mais même dans le monde, il faut aussi, non pas seulement ne pas idolâtrer, mais ne pas être une idole. C'est dans les deux sens. Et ça, c'est que Christ qui peut nous aider. Voilà. Donc, et pour cela, alors peut-être que ça vous a un peu étonné, mais parce que, au fait, pendant l'Eucharistie, moi, c'est en étudiant un peu tout ce côté sur le célibat, parce qu'à travers le célibat, on découvre infiniment de choses qui nous concernent à tous, dont la sponsalité que je suis en train de vous parler, et qui est très liée à l'incarnation, et ça encore je ne peux pas détailler, c'est la même chose. Il n'y a pas de sponsalité sans le corps du Christ, ça n'existe pas. C'est le Dieu de l'Ancien Testament était déjà l'époux. Dans Osée, il y avait déjà l'idée de Dieu époux. Mais c'est qu'avec le Christ que commence le célibat consacré. Parce que pour qu'il y ait célibat consacré, il faut qu'il y ait un corps. Il faut qu'il y ait l'incarnation. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut dire que l'incarnation... Oui, vous avez dit, c'est...
Ce matin, j'avais demandé si c'était nécessaire que le Christ soit venu au monde,
oui.
Pour qu'on puisse confier notre souffrance et oui. la transfigurer
oui.
notre propre souffrance.
Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que l'incarnation...
C'est
oui.
le chemin incontournable.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, bon, après, là, c'est des débats théologiques. Par exemple, il y a des gens qui disent, s'il n'y avait pas le péché, est-ce que le Christ serait incarné? Donc, c'est la question dans l'autre sens. Donc, est-ce que l'incarnation et le salut sont liés? Ou bien, si Adam n'avait pas mangé la pomme, Christ serait quand même incarné, oui ou non? Bon, on ne rentre pas dans des débats, c'est du Moyen-Âge, ils ont beaucoup réfléchi à ces questions. Moi, juste ce que je vous dis, c'est que le célibat que nous vivons est impossible sans le corps du Christ. C'est très lié, le célibat Et le corps du Christ est très lié, et pas seulement son corps historique, mais son corps eucharistique. Et donc il y a un lien très fort entre notre appel et l'Eucharistie. Et c'est pour ça, donc je conclue là-dessus, et ça vous a peut-être étonné, quand je l'ai compris avant mon ordination, et du coup depuis, à chaque fois que je célèbre une messe, avant de dire « voici l'agneau de Dieu », je dis « voici l'époux ». Parce que vraiment, l'Eucharistie, c'est l'époux qui vient à notre rencontre. C'est vraiment l'époux qui vient à notre rencontre. La communion est un acte sponsal, où deux corps deviennent un. Vous voyez ? Et du coup, c'est l'époux qui vient à notre rencontre. L'Eucharistie, la communion, le corps du Christ, nous dit tout de Dieu comme époux. On a beaucoup compris Dieu comme père, on l'a compris comme frère, on l'a compris comme ami, on l'a compris des fois comme enfant, et il faut qu'on le découvre comme époux. Et encore une fois, époux, pardon pour éviter les confusions, c'est pas le mari, ça n'a rien à voir. L'époux, c'est pas le mari, hein, c'est... Voilà, juste comme ça. La sponsalité, c'est pas le mariage. Bon, il y a des choses qui ressemblent, il y a des choses qui sont très différentes. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui, donc si vous avez des questions...
Aujourd'hui ou bien ce soir?
Et alors, il y a juste la veillée de prière. Alors, oui, je peux peut-être dire deux mots sur la veillée de prière, ouais, après 5 minutes, de, parce que j'ai plus l'horaire. C'est à quelle heure les vêpres, pardon? C'est maintenant. Pardon? Ah oui, et avant, il y a le souper. Ok, donc on a 10 minutes. 10 minutes. Alors, j'hésite pour, je ne sais pas qui reste, qui ne reste pas. Je vous dis juste une petite chose. On aura pendant la veillée de prière un moment où nous allons embrasser la croix du Christ. Et donc, en fait, ce sont les vêpres, mais avec un peu de modification. Et donc, quand on va embrasser la croix du Christ, c'est par rapport à ce que je vous disais au départ, c'est qu'on ne va pas pouvoir embrasser la croix. On ne peut qu'embrasser Jésus. Et vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut expérimenter, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche qu'on accède à la croix. Vous voyez, c'est-à-dire ce corps du Christ cloué sur la croix, c'est précisément pour qu'on puisse plus arriver sans matelas de sécurité à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? On peut plus... voilà, c'est un peu ce symbole-là que je vais vers la croix et au fait, ce que je trouve, c'est Jésus. Vous voyez, c'est avec cette conscience-là qu'on va accomplir ce geste. Pour voir comment le Christ, il a couvert la croix par son corps. Et une deuxième proposition... Alors, soit maintenant, mais je pense que c'est bien que vous la gardiez chez vous et que peut-être, voilà, c'est par rapport à cette phrase qui un peu résume, peut-être, et en même temps j'hésite un peu, donc je vous la confie, voilà, en toute liberté. Quand Saint Paul, il dit « J'endure ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous ». Voilà, c'est une phrase très très mystérieuse. « Je trouve ma joie », ça c'est une clé. Il faut de la joie dans l'acte d'offrande. Il ne peut pas y avoir quelque chose sans la joie. C'est essentiel que tous ceux qui ont décidé de donner dans leur cœur le fassent avec joie, dit le même saint Paul. Et donc, je trouve ma joie dans les souffrances, donc là, vraiment la plus grande contradiction chrétienne, que j'endure, et c'est là qui fait la joie, pour vous. Donc c'est par amour. Quand je dis pour quelqu'un, ça veut dire par amour. Vous voyez, cette petite phrase résume beaucoup de choses à elle seule. Alors je vous propose très librement, et encore une fois avec un peu d'hésitation, de, pour vous-même, de dire voilà, je trouve ma joie dans 3 points de suspension, donc quelque chose qui, voilà, qui m'embête un peu, ma petite croix, ou peut-être ma petite offrande, tu vois, je trouve ma joie dans, que j'endure pour, et voilà, 3 petits points de suspension. Et donc, mais vraiment d'abord, il faut que vous accueilliez la phrase de Jésus, « Je trouve ma joie dans la croix que j'endure pour toi. » Ça, c'est le premier, comme on a dit, d'abord recevoir. Ne pas sauter tout de suite sur ça. Il faut d'abord recevoir Jésus qui nous dit « Je trouve ma joie dans la croix que j'ai endurée pour toi. » Ok, donc je reçois. Et après, à un moment dans ma maturité spirituelle, je vais pouvoir dire, je trouve ma joie dans l'heure que je consacre chaque semaine, que je, voilà, dans, voilà, que je consacre chaque semaine pour prier pour les pauvres, par exemple. C'est une offrande. Une heure d'adoration par semaine, c'est une vraie offrande. Vous voyez, c'est-à-dire ne minimisez pas cette heure d'adoration que vous faites par semaine. Il faut la faire avec joie pour la vie de quelqu'un. Vous voyez, on n'est pas là juste pour nous gargariser spirituellement, dit notre fondateur. On n'est pas là pour voilà, juste être moi avec mon petit Jésus, c'est très bien, un peu. Mais on est là pour le monde, quelqu'un le disait. On est là pour le monde. Donc du coup, voilà, je vous propose, hein, franchement, très librement, de soit ce soir, d'écrire quelque chose, de le déposer devant la croix, soit à l'heure que vous voulez, un jour, en méditant, de trouver votre fécondité, parce que là, c'est de la fécondité. C'est ça qui fait que nous sommes féconds, que nous sommes des mères. Nous sommes tous des mères parce que on peut donner la vie, on peut enfanter des gens, comme je vous le disais au début, et c'est ça notre gloire pour la vie éternelle. Voilà. Donc, on va laisser juste 10 minutes, non, même pas 7 minutes. On mord un peu sur l'élève pour des questions éventuellement. Pardon ? Sponsalité, oui.
Comment vous l'écrivez ?
En fait, c'est un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire que si vous tapez sponsalité dans votre Word, il va vous mettre des petits... Il va vous mettre le rouge. Mais c'est le pape Jean-Paul II qui l'a un peu mis à l'ordre du jour. Et ça s'écrit sponsalité. S-P-O-N-S-A-L-I-T-E. Sponsalité. Et donc, dans votre Word, vous mettez « Ajouter au dictionnaire ». Parce que vous allez l'utiliser souvent. En tout cas, moi, je l'ai mis parce que maintenant, je le sors souvent.
Excusez-moi, vous m'avez dit, l'Eucharistie, c'est l'époux qui vient à notre rencontre et la communion est un acte
sponsal. Oui, oui. Oui, dites-moi, point pour ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Non, ce que j'ai dit après, c'est vraiment pourquoi on peut dire que c'est un acte sponsal, parce que qu'est-ce qu'un acte sponsal? C'est deux chairs, Jésus qui le dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Quand il parle du mari et de la femme, pour définir cette union, il dit ils ne sont plus deux, c'est deux chairs qui ne forment plus qu'une seule. Et quand on communie au corps du Christ, c'est exactement ce qui se passe, c'est deux chairs, parce que nous sommes une chair, il est une chair, qui ne forme plus qu'un. Donc, c'est un acte sponsal.
Parce que Jean-Paul II, il n'employait pas ça, surtout pour le mariage. Vous dites, c'est pas le mari, mais j'essaie de comprendre ce mot-là, puis quand je pense commencer à le comprendre, ça renverse, c'est plus chaud.
Non, dites-moi, je n'ai pas compris.
Je vais le faire dans trois phrases faciles.
Qu'est-ce que la sponsalité?
Sponsal, mettez-le dans des phrases faciles, trois phrases.
Faites trois phrases avec sponsal, c'est l'exercice que vous me donnez.
Des phrases faciles que je peux comprendre.
Alors... l'époux est celui qui donne sa vie par amour pour nous. Ça, c'est la définition de l'époux. Qui est l'époux? L'époux est celui qui donne sa vie par amour pour moi. Ça, c'est la définition d'époux. Voilà. Donc, c'est... le mari, des fois, il a ça, mais pas tout le temps. En tout cas, l'époux est celui qui... Le mari doit imiter l'époux. Mais bon, d'ailleurs, Jésus le dit, Saint Paul, pardon. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, vous voyez? Donc il y a une correspondance entre le mari et l'époux, mais l'époux est le modèle. Donc l'époux est cet être qui donne sa vie par amour pour moi, c'est la définition si on veut. La sponsalité, c'est l'union d'une personne avec l'époux, vous voyez? C'est-à-dire qu'on parle de sponsalité, quand une personne accepte l'époux, accepte cet amour que l'époux a voulu donner. Parce que l'époux donne de l'amour, mais il faut que quelqu'un le reçoive. Et quand il y a quelqu'un qui reçoit l'amour de l'époux, on parle de sponsalité. C'est l'acte qui fait transférer l'amour de l'époux de celui qui aime à celui qui est aimé. Vous voyez, c'est ça la sponsalité, c'est l'acte de recevoir l'amour de l'époux. Vous voyez? Et puis, troisième phrase, une troisième phrase, oui, encore une fois, la communion est un acte sponsal, parce qu'elle traduit l'union de deux chairs en une. Et quand il y a union de deux chairs en une, on parle d'acte sponsal. Voilà. L'acte sponsal, c'est l'union de deux chairs en une. Ça va ?
C'est... Peut-être que ça finira par rentrer dans nos vocabulaire.
Oui, mais surtout dans notre cœur, parce que...
Le dictionnaire, il n'y a rien là-dessus, il y a le mot, il y a le dictionnaire.
Oui, oui.
Moi, je trouve que le plus beau, c'est... Tu sais, comme des fois, à l'église, en tout cas, il y en a un qui va dire le corps du Christ, Nicole. Il va dire mon nom quand il dit le corps du Christ.
Oui.
Je trouve ça tellement beau.
Que quand on dit le nom, qu'en donnant le corps du Christ, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est personnel parce que...
Je trouve que là, ça s'incarne.
Oui. Oui, oui. Il nous appelle par notre nom.
Ouais.
Ne comptez pas sur moi, j'ai une mémoire terrible avec les prénoms. Terrible, terrible, vraiment. Je pense que parmi tous, je suis le moins bon. Vraiment.
C'est comme les chants de la donne.
Oui.
Moi, j'ai plus la bonne manie, la bonne habitude.
Ouais.
De dire la paix du Christ.
Oui. Donc, ne vous fâchez pas si je ne vous dis pas, c'est un problème que j'ai, que je mémorise très vite. Même avec mes frères, je confonds les prénoms, j'appelle tel, tel. Donc. Non, ne fais pas de test sur cette matière.
Est-ce qu'on peut dire que, admettons, je dirais au Christ, on dit un oui nuptial.
Oui, on peut. Sponsal, si vous voulez.
Oui.
Parce qu'après, nuptial, après, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas encore tout à fait d'accord, mais on essaye de différencier sponsal, conjugal. Et vous êtes où et nuptial. Nuptial, conjugal et sponsal, on essaye de trouver des différences. C'est pas encore très, très.
Ça décrit en tout cas le lien amoureux.
Oui. Encore une fois, ce n'est pas des mots qui sont très clairement définis chacun dans une catégorie précise. Voilà.
Est-ce que tantôt vous avez parlé de. Je ne sais pas si j'ai peut-être. De sacrifice.
Oui.
Est-ce que vous pouvez définir ce terme? Parce que c'est péjoratif aussi. Hein?
Oui, ouais, alors c'est très... Certains... Merci de la question, mais c'est vrai que c'est un mot qu'il faut un peu préciser. Sacrifice, c'est vraiment rendre sacré. Oh, okay. Le sacrifice, c'est ce qui rend sacré quelque chose.
Oh, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. quand je fais un sacrifice, c'est que la chose que j'ai donnée devient sacrée. Vous voyez, donc, puis après, c'est à moi de décider qu'est-ce que je vais de faire sacré. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai 2000 euros, je sacrifie 100 euros pour le Bahamas, et au fait, ces 100 euros deviennent sacrés. Vous voyez, ces 100 euros deviennent sacrés parce que je les ai enlevés de moi pour donner la vie à quelqu'un d'autre, donc j'ai sacrifié 100 euros, et donc ces 100 euros sur les 2000, c'est les seuls qui vont me rester dans la vie future. Oui. Après, chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur avec joie. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est ce qui a été sacrifié, donc rendu sacré. Donc, vous voyez, peut-être on peut éviter de dire sacrifié. On a toujours l'impression qu'on va nous frapper. Donc, au fait, on a sacrifié, c'est-à-dire on a rendu sacré cette partie de mes revenus. Et ce que je rends sacré reste pour toujours. Voilà. Je sacrifie mon temps. Parce que je fais de l'adoration, cette heure d'adoration que j'ai sacrifiée devient sacrée. Et elle reste pour toujours, elle devient éternelle.
C'est vraiment beau. C'est une offrande.
C'est une offrande sacrée. Voilà. C'est vraiment, on élève les choses par le sacrifice. On les rend sacrées, quoi. C'est le rite qui nous permet de rendre certaines choses banales, qui sont peut-être profanes, on les rend sacrées. Voilà. Et du coup, ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sacré, il est éternel. L'offrande, on ne le perd plus. C'est l'offrande. Oui, après, il y en a des gens qui vont en faire de toute leur vie l'offrande de tout, de leur corps, mais par amour, encore une fois, pour ne pas oublier Saint Paul. Voilà. Ouais. On va sacrifier une heure. Non, pas maintenant, tout à l'heure. On peut sacrifier aussi pour le repas. Bon. C'est...
Merci d'avoir accepté les
adorateurs. Vous êtes les très bienvenus. Mais vous voyez, il y a eu quand même des passerelles intéressantes entre le thème et votre mission. Donc, vous voyez, c'était pas du tout déconnecté, quoi.
Merci à toutes les des personnes qui étaient à la retraite qui avaient accepté aussi qu'on soit là, parce que ça a dû vous déranger un peu.
Merci de votre présence.
Nous voudrions remercier les adorateurs d'être là aujourd'hui, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, quand on est si nombreux à vivre, entendre et accueillir tout ça ensemble, donc,
ça change.
C'est,
ouais.
Voilà, c'est l'église qui s'est construite
ouais.
dans ce sous-sol de cette maison.